Hervé, bonjour.
Bonjour.
On attaque cette revue de presse du matin avec la guerre en Israël, toujours dans l'impasse, 125 jours après les attaques du Hamas.
Gaza, Israël, une trêve encore lointaine, titre Le Monde, après que Benjamin Netanyahou a refusé mercredi un cessez-le-feu et annoncé au contraire une offensive sur la ville de Rafah. Sa position suscite l'effroi des familles des 136 otages détenus à Gaza, animés par un sentiment d'urgence absolue, écrit Le Monde. Une des femmes libérées pendant la première trêve en novembre a lancé au Premier ministre israélien « Si vous continuez sur cette voie pour renverser le Hamas, il n'y aura plus d'otages à libérer. » À Rafah, l'inquiétude n'est pas moins grande. Dans cette cité du sud de la bande de Gaza s'entasse 1 300 000 civils dans des conditions déplorables, décrit le Parisien. La Croix souligne que, affaibli militairement, le Hamas ne rompt pas et que ses trois chefs restent insaisissables. D'après le New York Times, Israël reçoit l'aide d'une unité spéciale de la CIA pour les localiser.
Alors dans ce contexte, le président de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, s'inquiète de l'antisémitisme mais prône la modération des discours.
Oui, c'est un entretien utile. Il est lumineux à lire dans l'Express. L'antisémitisme montre à nouveau son horrible visage, dit Danny Dayan. Le vieil et vil antisémitisme nazi et l'antisémitisme relativement nouveau de ceux qui se prétendent antisionistes. C'est la théorie du fer à cheval. L'antisémitisme est le sujet qui rapproche le plus l'extrême gauche et l'extrême droite. Le président de Yad Vashem s'est rendu récemment dans des universités américaines. Il y a entendu des étudiants appeler à l'élimination d'Israël à travers des slogans plus ou moins confus. C'est comme un cancer, explique-t-il. La phase 1, c'était le boycott d'Israël. Nous sommes à la phase 2, plus agressive. La phase terminale sera destructrice, mais pour l'université, pour la société, pas pour les juifs.
Il refuse qu'on assimile les massacres du Hamas à l'holocauste nazi. Pourquoi ?
Je vous lis son explication. Quand nous avons entendu ces histoires de mères couvrant la bouche de leurs enfants pour ne pas être découverts par les meurtriers du 7 octobre, nous avons tous pensé à cela. Le Hamas voulait cette comparaison, que les Israéliens aient le sentiment que la Shoah se répétait, car rien ne nous terrorise plus. Mais il y a une grande différence. Israël existe et son armée est intervenue, même si ce fut tardivement. Nous ne dépendons plus des autres à supplier de bombarder les lignes de chemin de fer menant à Auschwitz. Il n'accepte pas davantage qu'on parle de génocide à propos des bombardements à Gaza. Le mot dit-il, a été créé après la Shoah pour définir les meurtres intentionnels des Juifs à une échelle industrielle, rappelle-t-il. L'utiliser pour évoquer Gaza est une falsification de la vérité. Dans la guerre, il y a toujours des victimes collatérales, mais il n'y a pas aujourd'hui d'intention de tuer le plus possible de Gazaouis.
En France maintenant, la deuxième vague de nominations au gouvernement annoncée hier suscite des commentaires plutôt critiques.
Oui, même ironique parfois, remaniement laborieux sur fond de crise dans la majorité, titre Le Figaro, qui relève que l'opération commando annoncée a finalement pris un mois et s'est achevée dans la douleur. Il est vrai que François Bayrou a préféré faire une sortie plutôt qu'une entrée. L'opinion en conclut que la charge de Bayrou éclipse le remaniement, ce qui est peut-être un peu excessif. Plus mesuré, les échos observent que le coup de Trafalgar de Bayrou fragilise le camp de Macron et Le Monde résume une si longue attente pour un non-événement. Ouest-France annonce la fin du faux départ et la Provence titre « Attal fait le ménage », conclusion peut-être un peu exagérée après la rétrogradation d'Amélie Oudéa-Castéra qui quitte l'éducation nationale mais qui garde donc le ministère des Sports et des Jeux Olympiques.
Et celle qui lui succède, Nicole Belloubet, est finalement la seule personnalité qui attire un peu les regards.
Son visage est à peu près partout, souriant en une du Parisien, descendant un escalier dans le Figaro, toujours avec des dossiers sous le bras, ceux du ministère de la Justice qu'elle a dirigé de 2017 à 2020. Libération écrit aimablement que l'éducation nationale devrait lui convenir davantage que la chancellerie où elle s'était montrée incapable d'obtenir des arbitrages. Ça c'est fait. L'opinion, citant un haut fonctionnaire anonyme, prédit que Nicole Belloubet sera un doudou pour les profs, c'est-à-dire qu'elle sera là pour apaiser plus que pour bousculer. Les Échos rappellent que jadis, la même Nicole Belloubet, soutenait la réforme du collège, aujourd'hui vilipendée par Gabriel Attal, et qu'elle déplorait les, je cite, les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. C'est sans doute moins grave que d'avoir inscrit ses enfants dans une école privée.
Ironie, ironie. D'autres femmes occupent les titres des journaux, les actrices, à commencer par Judith Godrèche, qui accuse certains réalisateurs de leur avoir fait subir des abus sexuels.
Difficile d'échapper au feuilleton. Chaque jour ou presque, une nouvelle accusation. Les actrices brisent l'omerta, proclame Le Parisien. La justice est parfois saisie, pas toujours. Judith Godrèche a déposé plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, qui nient tout abus. Libération raconte comment, dans les années 80, le cinéma français s'enticha des actrices adolescentes et comment des réalisateurs en profitèrent pour mélanger leurs fantasmes, leurs films et la réalité. Titre joliment proustien, à l'ombre des jeunes filles en pleurs, mais témoignages éprouvants, comme celui de Marianne Denicourt qui décrit Doillon tapant à la porte de ses comédiennes. On avait peur en entendant ses pas dans le couloir. De temps en temps, le prétexte était qu'il venait nous parler d'une scène. On s'était mis d'accord pour ne jamais le recevoir seul dans sa chambre.
Ambiance. On termine en musique avec cette étonnante intrigue judiciaire relatée par Le Figaro. Les héritiers de Maurice Ravel ont saisi la justice pour récupérer les droits de son morceau le plus célèbre. Il en passe un tous les quarts d'heure.
Oui, vous avez évidemment reconnu le très célèbre Boléro. Et cette histoire est encore plus rocambolesque qu'un remaniement sous Macron. Mercredi prochain se tiendra devant le tribunal judiciaire de Nanterre le procès qui oppose les lointains ayants droit du compositeur français Maurice Ravel, donc à la SACEM, qui gère les droits des œuvres artistiques. Les compositions de Ravel sont tombées dans le domaine public en 2016, mais le Boléro est à l'origine un ballet dont le décorateur et costumier Alexandre Benoît est mort en 1960. Or, la loi prévoit que la protection d'une œuvre dure 70 ans à compter du décès de ses auteurs. Les requérants tentent donc de faire reconnaître Benoît comme co-auteur du Boléro. Enjeu du procès, 20 millions d'euros, selon Le Figaro, qui raconte l'étonnante saga familiale derrière l'imbroglio judiciaire. Il y est question de comptes offshore, de mariages arrangés, de partitions de musique et de répartitions d'argent. L'histoire est presque aussi envoûtante que le Boléro. Le final risque d'être moins grandiose.
La revue de presse d'Hervé Gattegno, que je salue, auquel je souhaite un bon week-end. À très vite, Hervé. Merci pour la revue de presse. Dans un instant, les esprits libres. Il est 8h38 sur Radio Classique.